Merci, Pasteur Stephen. La semaine prochaine, on termine ce matin notre série sur la prière. C'est l'heure de la prière, le jeûne et la prière. Mais on commence la semaine prochaine une série qui va s'intituler ADN. Je vais lancer la série de début d'année ADN dans dans notre corps, dans la nature. L'ADN, ça veut dire beaucoup. L'ADN, c'est présent dans tous les êtres vivants. C'est le support universel. Ça détermine notre identité. L'ADN ne ment jamais. L'ADN, c'est ce qui nous distingue, qui nous définit et nous identifie. Et nous allons étudier ensemble l'épître de Jacques. On va le traverser chapitre par chapitre dans le mois de mars, le mois de février, pardon, et le mois de mars. Et c'est à chaque année, on fait des séries comme ça sur un livre de la Bible. Et notre objectif, c'est pour le reste de votre vie, vous ne lirez plus jamais l'épître de Jacques de la même façon. On va l'avoir traversé ensemble et c'est un épître tellement puissant. L'épître de Jacques nous parle de l'ADN du chrétien, vraiment ce que Dieu veut que nous soyons. Les thèmes sont tellement pratiques. C'est l'épître le plus direct, le plus pratique, le plus in your face. Jacques est l'auteur le plus direct, le plus pratique et confrontant d'une certaine façon, mais tellement encourageant du Nouveau Testament probablement. On va regarder ensemble notre ADN à travers les épreuves et la souffrance d'ADN, à travers le contraste. Jacques fait le contraste entre la vraie foi, la fausse foi, la vraie religion, la fausse religion. L'ADN dans nos paroles, l'ADN dans tous les défis de la vie. L'apôtre Jacques parle des défis que nous avons dans nos priorités, dans les pressions de la vie, d'une manière qui aurait pu être écrite la semaine dernière. Alors ne manquez pas ça, ça commence. Je lance la série dimanche matin prochain, ADN, ici même à Nouvelle Vie. Et ce matin, nous allons recevoir les offrandes maintenant. J'invite les placeurs à s'avancer maintenant. Nous allons recevoir nos offrandes. C'est le dernier dimanche de janvier. C'est le premier dimanche qu'on a une température à peu près normale. Il peut y avoir plein de gens qui ont manqué les réunions ici et là pendant le mois de janvier. Merci d'être fidèles dans vos offrandes ce matin, à cette fin du mois. Seigneur, reçois les offrandes pour l'avancement de ton œuvre ici, dans notre ville et dans les nations, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit amen et amen. Et on va regarder ensemble un court vidéo avec quelques extraits de notre défi 2020 et la présente ouverture du message. C'est l'heure de la prière.
Quelle joie pour moi de vous inviter à vous joindre à nous pour la plus grande réunion de prière et rassemblement de prière de toute la francophonie.
Et quoi de mieux que la louange et l'adoration pour démarrer la prière?
Et moi, j'ai été longtemps un peu prisonnière que la prière, c'était ça. C'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Donc,
la prière, c'est comme de l'eau chaude. Et la présence de Dieu, quand elle vient, elle enlève tout ce qui est froid.
Peux-tu nous parler un peu de ta vie de prière? À quoi ça ressemble?
J'essaie de prier selon les conseils, les instructions de Jésus.
À l'époque, quand j'étais sans enfant, j'avais le luxe de pouvoir choisir mon moment de prière dans la journée. Dans mes journées de congé, je pouvais faire ça à 9h le matin. Maintenant, à 9h le matin, c'est plus possible.
Et en fait, souvent, ce que je fais, c'est un peu bizarre, les gars qui vont regarder vont me dire que je suis fou, mais il m'arrive de faire deux tasses de café, une pour moi et une pour Dieu. Nice. Bon, je bois les deux cafés, mais je me dis...
Non, mais c'est cool, ça te met en condition de « je suis pas tout seul, c'est une relation,
mais
c'est vrai. »
Quel conseil tu pourrais leur donner pour les encourager dans leur vie de prière?
Pour moi, et je sais que c'est pour tous, la prière me rend meilleure.
Et puis j'étais comme aussi étonné de la précision avec laquelle Dieu nous parlait à ce moment-là.
Mais à ce moment-là, j'ai aussi dit, « Ok, Seigneur, merci pour cette parole, mais me laisse pas comme ça, je veux pas faire ce choix toute seule. »
Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Non, rien n'égale ton amour.
Vous venez de voir quelques extraits de notre coaching de prière. Plus de 3000 personnes sont déjà inscrites. On vous invite à vous joindre à eux tout simplement en allant à 2020.nouvellevie.com. Et vous allez avoir 20 jours. Pendant 20 jours, vous allez recevoir à chaque jour un courriel personnalisé. C'est un coaching de prière. Il y a des moments de louange. Il y a plusieurs des membres de l'équipe de Nouvelle Vie qui participent ainsi que des gens de toutes sortes de milieux, de toutes les sphères de la vie. J'étais béni d'entendre une femme qui est ici ce matin, une vice-présidente d'une grande corporation ici au Québec qui témoigne de comment elle s'est développée en prière, plus des leaders de partout à travers, des leaders d'impact dans la francophonie, Luc Dumont, Patrice Martorano, Bruno Picard que vous avez vu, également Dan Lutten et plusieurs autres. Alors, allez directement à 2020.nouvellevie.com. Ça peut commencer aujourd'hui pour vous, pour le prochain 20 jours, et vous allez être bénis. On a reçu plein de témoignages de partout, de gens qui suivent le défi 2020. On a comptabilisé une dizaine de, partout à travers le Québec, bien sûr, mais une dizaine de nations où des gens disent on suit le défi 2020. Alors, est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue ce matin? Est-ce qu'on peut les saluer ce matin? Leur pousser un cri pour la francophonie? Nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Nous sommes au jour 20 de notre 20 jours. J'ai ressenti du Seigneur de faire un 20 jours de jeûne et de prière. Alors, c'est le 20e jour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites à quelqu'un près de vous, ça veut dire que cet après-midi, Pasteur Claude va manger. Dites ça à quelqu'un près de vous. Et ça veut dire aussi que l'Esprit de Dieu nous rassemble. Est-ce que vous réalisez que dans les derniers 7 jours de réunion de prière, il y a plus de 7000 personnes qui sont venues prier à Nouvellevie, ici, à Drummondville, à La Prairie? Est-ce qu'on peut à l'avance applaudir ce que Dieu va faire lorsque son peuple vient ensemble en jeûne et prière? Et ce matin, le message s'intitule « C'est l'heure de la prière », comme dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble. C'était l'heure de la prière. Et c'est l'heure du combat spirituel. L'heure du combat spirituel. Éphésiens, chapitre 6, verset 10, 12 et 18. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les croyants. » Il y a, à l'heure de la prière, c'est l'heure du combat spirituel. Et dans ce passage, l'apôtre Paul nous donne plusieurs vérités importantes pour chacun d'entre nous. Concernant le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Le combat dans lequel nous sommes engagés n'est pas un combat que nous pouvons gagner par nos propres forces, mais par sa force toute-puissante. Nous fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. J'ai besoin, vous avez besoin des forces toute-puissantes de Dieu, des armes de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a un combat dans l'invisible. Et dans le royaume de Dieu, ce qui est invisible est plus important que ce qui est visible. Alors, c'est par sa force toute-puissance, et notre combat est un combat, pas par nos propres forces, par sa force toute-puissance, mais aussi, ce n'est pas une lutte au niveau humain seulement. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais il y a tout un monde spirituel, un monde de ténèbres qui combat contre nous, contre lequel nous luttons et contre lequel nos armes, nos arguments humains n'en sont d'aucune efficacité, d'aucun impact. Nous avons besoin de continuellement se rappeler quand tu pries et tu combats pour quelqu'un, il y a un conflit avec quelqu'un, il y a un combat avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Au-delà de ce que tu vois à ce niveau, il y a un combat qui est au-delà de la dimension humaine. Notre combat doit se faire en tout temps. En tout temps, combattez, prenez, faites en tout temps par l'Esprit. Ça n'a jamais été dans l'intention divine que le combat spirituel soit 90 minutes par semaine ou deux fois, trois fois par mois. Je vais à l'église 90 minutes, puis le reste du temps, et quand je suis là, je suis avec les autres. Non, c'est un combat à tous les jours. C'est un combat dans chaque situation de ta vie. C'est un combat qui doit être conduit par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Il y a une communion avec l'Esprit de Dieu. Romains 8 le décrit de cette façon. Même lorsque nous ne savons comment prier, l'Esprit intercède à travers nous. Alors, c'est littéralement une conversation avec Dieu. C'est pas seulement à l'église, c'est avant d'aller travailler, c'est avant un rendez-vous, c'est avant une rencontre, c'est avec tes enfants, c'est face à toi-même, c'est seul devant ton ordinateur. C'est « Seigneur, Esprit de Dieu, aide-moi à prier ». C'est un combat avec toutes sortes de prières. Combattez à chaque jour par l'Esprit avec toutes sortes de prières. Il y a toutes sortes de prières pour toutes sortes de situations de nos vies et toutes sortes sortes d'émotions de nos vies. Si vous voulez avoir un exemple concret, si vous voulez donner un peu de vie, de vitalité à votre vie de prière, regardez, lisez par exemple, je vous défie cette année de lire les psaumes. Il y a 150 psaumes, et croyez-moi, ces psaumes sont non seulement des chants, ces psaumes sont des prières. Il y a dans les psaumes 150 émotions différentes pour chaque chose que je peux traverser. Et plusieurs d'entre nous avons appris et avons pris plaisir, et maintenant, ça fait partie intégrale de notre vie. Moi, ce matin, je peux vous citer des dizaines et dizaines et dizaines de références des psaumes parce que je prie ces psaumes. Pour chaque émotion que je peux traverser, il y a une prière, toutes sortes de prières. Et c'est un combat qui doit être pour d'autres que pour nous-mêmes. Prier par l'Esprit en tout temps pour tous les croyants. C'est ce qui est si précieux à l'Église de Christ. Vous n'êtes pas dans un christianisme biblique dirigé par l'Esprit si vos prières sont à propos de vous, si vos prières sont toujours pour vous, si vous vivez votre christianisme isolé. C'est pour ça qu'on vient ensemble. À qui il est bon, à qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble, de prier ensemble, de combattre ensemble, de pleurer ensemble, de se réjouir ensemble. C'est là que l'Éternel répand sa bénédiction, vous devriez dire amen. Et le combat probablement le plus sévère, c'est que c'est le combat spirituel, c'est le combat que je dois continuer. Veiller à cela avec une entière persévérance. Veiller à cela. Le message de ce matin est la fin d'une série, mais il doit être le commencement. Le combat spirituel doit commencer, a commencé en ce début d'année, mais il doit surtout continuer et il doit croître. Une des définitions de la folie dans n'importe quel domaine, dans le domaine spirituel aussi, c'est de faire la même chose de la même manière avec la même mesure et s'attendre à un résultat différent. Si vous voulez voir la présence de Dieu, si vous voulez voir des victoires croître dans votre vie, si vous voulez que votre commencement spirituel soit et que l'année 2020 soit différente et à un autre niveau que 2019, vous devez prendre des décisions. C'est-à-dire, je veux pas seulement commencer, je veux croître dans mon engagement. Peut-être que pour vous, vous êtes dans la maison de Dieu une fois ou deux fois par mois, vous allez dire, je vais en faire une priorité de la maison de Dieu cette année. Peut-être que c'est de dire, je vais me joindre, je n'ai une fois ou deux par année, mais un dimanche soir par mois, on va avoir la prière ensemble. La prochaine fois, c'est le 1er mars. Il y avait des centaines et centaines qui étaient ici dimanche dernier. Alors oui, je vais le mettre dans mon calendrier, c'est à 16h de l'après-midi, 17h30, je suis à la maison avec les enfants, mais j'ai touché Dieu. Je veux ajouter quelque chose. Je vais aller sur le site de l'Église, je vais aller me nourrir, je vais aller me joindre à un groupe Nouvelle Vie. Il y a une centaine de groupes Nouvelle Vie à lesquels tu peux te joindre pour aller prier. Il faut que nous avons besoin de plus qu'un bon début. Nous avons besoin de demeurer en sa présence. Demeurer. Personne ne nous amène à ça, c'est vraiment bon. Nous avons besoin de plus qu'un bon début, nous avons besoin de demeurer. Demeurer en sa présence. C'est ce que Jésus a dit, c'est la fin de cette série de messages doit être un tremplin, une rampe de lancement. C'est la fidélité à demeurer qui va nous permettre de porter un fruit qui va demeurer. C'est l'heure de la prière. Et probablement, que le plus, c'est l'heure du combat spirituel. Et notre plus grand combat est probablement de continuer. Plusieurs d'entre vous avaient une espèce, je l'entends dans l'esprit, une espèce de soupir, presque d'exaspération intérieure, parce que ça fait, vous dites, je le sais, à tous les ans, je commence fort, puis après ça, en chemin, j'ai hâte à la prochaine série, je vais essayer de faire mieux, je veux vous encourager, relève la tête ce matin, je crois que ce que tu vas entendre ce matin va t'aider, va t'équiper afin d'être saisi par le pourquoi et le comment. Le comment, qu'on ne veut pas seulement commencer. Beaucoup font des résolutions de prière en début d'année, des résolutions de chercher Dieu, pour les voir s'amenuiser, veiller avec une entière persévérance. Il y a quelques semaines, au début du jeûne, je regardais les informations, les nouvelles, puis parlait des déboires du Canadien de Montréal. Et vous savez, lorsqu'ils parlent de l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal, ils disent souvent le CH. Et ici, dans nos communications, depuis toutes les années, ici à Nouvelle-Vie, à chaque fois, on a plein de rencontres, plein de meetings, il y a des minutes des rencontres, et moi, c'est toujours, on marche avec des initiales, c'est toujours CH. CH va prêcher dimanche, CH va animer, là, CH va... Alors, le CH, c'est moi. Et j'étais assis au début du jeûne, et il y avait un commentateur qui lamentait les déboires du Canadien, puis il a dit cette phrase qui m'a traversé. Il a dit, ah, le CH, c'est toujours pareil. À chaque saison, depuis des années, c'est comme ça. Il commence fort... Il ralentit, il finit faible et il perd. Commence fort, ralentit, finit faible et il perd. Il y a quelque chose dans mon esprit qui montait. Seigneur, que ça ne soit jamais dit de moi. Que j'ai commencé fort, mais que j'ai ralenti. Et que j'ai fini faible et que j'ai perdu. Que ça ne soit pas dit de ma vie, que ça ne soit pas dit de ma vie de prière, que ça ne soit pas dit de ma sanctification, que ça ne soit pas dit de ma passion pour toi, que ça ne soit pas dit de notre Église, que ça ne soit pas dit de vous, de votre année de prière cette année. On ne veut pas qu'avoir commencé fort. C'est l'heure de la prière, défi 2020, pour ralentir, pour faiblir et pour perdre. Nous voulons commencer fort, nous voulons débuter afin de demeurer, afin de grandir. En 2020, je vais porter du fruit. Et en 2020, alors quelqu'un devrait applaudir ce matin, ça va vous chercher à quelque part. Ne cessez jamais de prier. 1 Thessaloniciens 5, 17, ne priez sans cesse. Dans la conjugaison grecque, ne cessez jamais de prier. Je ne crois pas que l'apôtre Paul disait que tu dois être 12 heures, 24 heures par jour devant ton patron partout au travail, en train de prier sans arrêt, que ta voix n'arrête jamais. C'était un appel de ne jamais cesser de prier. Jamais cesser d'être en communion avec Dieu. Ce n'est pas une affaire de temps seulement le matin. Je me souviens de plusieurs années, David Wilkerson, je marchais avec lui à New York, je lui parlais de nos semaines de prière, tout ça. Il m'avait dit quelque chose très simplement qui m'avait surpris, parce que je le considère vraiment comme un homme de prière. Et puis il m'a dit, tu sais, c'est rare que je prie plus que 20 minutes. Je dis, hein? Puis il dit, et c'est très rare aussi que je suis 20 minutes sans prier. C'est rare que je prie plus que 20 minutes. C'est rare. Je vais attendre que ça se rende jusqu'en arrière. Là. Ça va bien se rendre. Il y en a qui vont en pogner cet après-midi à 3 heures. Alors, non, c'est une vie de prière. Ne cessez jamais. Il y a une conversation avec Dieu. Il y a une relation avec Dieu. Il y a une communion avec Dieu. Il y a cette dynamique que je veux demeurer en lui. Jésus dit, demeure. C'est pas juste le début. C'est tes décisions de demeurer. Jean 15, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme la branche ne peut d'elle-même porter du fruit, ainsi vous ne pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis la vigne, dit Jésus, vous êtes les branches. La sève coule à travers la vigne dans les bras. Celui qui demeure, celle qui demeure en moi, et en qui je demeure, portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça n'a jamais été l'intention divine, ni quoi que ce soit qui se rapproche du modèle de la parole de Dieu, de ce que Dieu désire pour nous, du christianisme authentique, que tu sois spirituel le dimanche matin pendant 90 minutes et que le reste de la semaine, tu es déconnecté, tu es débranché, tu es coupé de la vigne. Le désir de Dieu, c'est que tu marches à chaque jour en communion avec lui, à chaque jour à le chercher. Quelqu'un devrait dire oui. Parce que Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être spécifié. Il parle ici de quelque chose qui est éternel. Il parle du monde spirituel. Il parle de ne pas combattre contre la chair et le sang, parce que la réalité est, puis il y a plein de chrétiens qui le prouvent à un certain niveau, que sans la prière, tu peux faire bien des choses. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis il y en a d'entre vous qui ont dit, moi, je fais pas mal d'affaires puis je ne prie pas. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la prière, avec tes efforts, ton talent, tes capacités, ta personnalité, ton expérience, ton dynamisme, ta persévérance et toutes sortes de belles qualités, tu peux faire certaines choses. Mais on parle ici du monde spirituel, on parle de victoire, on parle d'une mesure de bénédiction, de fruits, d'obtenir des choses de la part de Dieu, de marcher d'une façon qui lui est agréable. Il y a une mesure spirituelle, une dimension de bénédiction, de ciel ouvert, de flot, de force, de direction, de renouvellement, de joie et de force et de passion qui est seulement possible alors que je suis branché et alors que je demeure. On s'est tous posé la question, est-ce que à un moment dans notre vie ou dans une sphère de notre vie ou dans une prière pour laquelle on intercède tellement et dans une chaîne qu'on n'arrive pas à briser ou dans une blessure dont on n'arrive pas à guérir ou dans une vision qu'on n'arrive pas à accomplir, on a tous eu ces moments de comment ça se fait que j'arrive pas à, pourquoi je viens de frapper le mur, comment ça se fait que je ne semble pas être capable, j'ai déjà été utilisé de Dieu, mais comment ça se fait que là, dans cette sphère-là ou dans ce moment-ci ou dans cette vision-là, je n'y arrive pas. C'est ce qui est arrivé. On va regarder un texte ce matin qui est arrivé dans la vie des disciples. Dans Matthieu, chapitre 17, alors que nous parlons du combat spirituel. Et le contexte, vous lirez, lorsque vous arrivez au chapitre 17, dans les chapitres précédents, ce qui est intéressant, c'est comme beaucoup d'entre nous, dans le chapitre 10, Jésus les a appelés. Alors, il a mis l'onction sur eux, a mis son esprit sur eux. Ils ont eu des fruits, ils ont connu, ils sont revenus rendant témoignage de tout ce qu'ils avaient vu et vécu, de comment Dieu s'était servi d'eux, des victoires qu'ils avaient obtenues, des tempêtes qui ont été calmées, de la multiplication des pains, de multiples guérisons. Et juste avant, c'est quasiment comme un début d'année dans la réunion de prière à Nouvelle-Vie. Il y a le monde de transfiguration, c'est-à-dire un moment de grande bénédiction, tellement grande que Pierre dit à voix haute ce que les autres pensent tout bas. Seigneur, il est bon, juste avant, dans Matthieu 17, il est bon que nous demeurions ici, bâtissons trois temples, demeurons ici, on est tellement bien dans ta présence. Mais au bas de la montagne de la bénédiction, comme toi et moi, lorsqu'on va sortir ce matin, au bas de la montagne de la bénédiction, il y a un homme et son fils qui les attend. Il y a un homme qui vient pour son fils, qui souffre atrocement, qui se fait du mal, qui est captif. Et il arrive dans le chapitre 17 et le verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique, il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Il se fait du mal, il est en train de se détruire. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu. » guérir. Ils avaient vécu des guérisons, ils avaient été utilisés de Dieu, ils avaient connu une certaine mesure, mais ils n'ont pas pu le guérir. Alors Jésus leur répondit, race ou génération incrédule et perverse. Voulez-vous dire à votre, dites-le avec punch, voulez-vous dire à votre avec moi, génération incrédule et perverse. Juste une autre fois, incrédule et perverse. Génération, je vais expliquer dans un instant, génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? « Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu? » Ça, c'est la question. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Pourquoi n'avons-nous pas pu? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu guérir de ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu amener guérison? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu? Pourquoi est-ce que je suis bloqué? Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Pourquoi n'ai-je pas pu? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démonisation, dit Onomazomé, cette sorte de démonisation, ce degré de captivité, cette mesure de délivrance, cette ampleur de la manifestation de Dieu, cette percée surnaturelle ne vient que par le jeûne et la prière. Les disciples s'approchent, sont dans une dimension du... La première parole que je veux vous donner, parce que c'est important ce début d'année pour Nouvelle Vie, c'est ces mots qui brûlent sur mon cœur. Et Jésus dit, « Amenez-les à moi, et l'enfant fut guéri à l'heure même. » À chaque début d'année depuis, c'est la 27e année que nous jeûnons et prions. Je prends le moment pour remercier le Seigneur, parce que mon père spirituel, Pasteur Sam, est ici, c'est lui qui nous a amené jeûner, Pasteur Marc et moi, pour la première fois, trois hommes dans une cabane dans le bois pendant trois jours. On pensait, Marc et moi, mourir de faim. Moi, j'étais un gars de la ville, un gars de béton, un gars de Saint-Michel. J'avais jamais été aussi creux dans le bois, à la campagne. On n'a pas de musicien, on n'a pas de chanteur, on n'a rien. On a Pasteur Sam et on jeûne. Entre les sessions, je vous confesse aujourd'hui, 27, des années plus tard, 40 ans plus tard, que je me promenais dans le bois et je commençais à manger des feuilles. J'avais faim, j'avais vraiment... Mais le jeûne, dans le jeûne et la prière, et depuis les débuts de Nouvelle Vie, depuis 27 ans, à chaque début d'année, et c'est important que vous compreniez ceci, les gens de Nouvelle Vie, qu'à chaque début d'année, alors que nous jeûnons et prions, Dieu donne des paroles. Des paroles, et depuis le début de cette série de 5 messages, ils sont tous en ligne, j'en ai donné plusieurs exemples. Mais à chaque début d'année, il y a comme des instructions. Il y a une parole qui annonce, il y a une parole qui avertit, une parole, et elles sont d'une on ne devrait pas en être surpris, parce que la parole de Dieu dit, Moïse parlait avec Dieu comme avec un ami. Et Dieu dit à Abraham, son serviteur, « Je ne cacherai pas à Abraham ce que je m'apprête à faire. » Lorsque nous jeûnons et nous prions, il y a une direction. Et à chaque début d'année, il y a des choses qu'on ne comprend même pas tout le temps sur le coup, mais qui ont eu d'immenses impacts, d'immenses significations. Alors ce matin, marquez mes paroles et vous les écouterez en début d'année 2021. Mais depuis le début du jeûne, de l'intérieur, avec dans nos temps de jeûne et prière de leader dans les dernières semaines ensemble, il y a une parole spéciale pour 2020, pour Nouvelle Vie. Chaque année a été bénie, mais il y a des mots tirés des Écritures que Dieu a écrits sur nos cœurs. Je vous les annonce pour 2020. Acte chapitre 1, verset 3, il se révéla, il se démontra vivant, il se manifesta vivant en leur donnant plusieurs preuves irréfutables. Et Dieu a mis dans notre esprit que cette année, il va manifester sa gloire avec des preuves irréfutables, des guérisons, des signes et prodiges, des guérisons entières, acte 3, 16. Je veux annoncer à quelqu'un qui a besoin d'entendre, il y a une guérison entière pour ceux qui vont le chercher ce matin, entière dans ton cœur, dans ton âme, dans ton pensée, dans tes pensées, dans ton passé, dans tes émotions. Des preuves irréfutables, des guérisons entières, des moments et maintenant. et maintenant, et maintenant, et maintenant. On a eu plusieurs et maintenant, mais 2020, dans ta vie et dans notre Église ensemble, va être une année de et maintenant. Et maintenant, et alors même, cette année, Dieu va manifester sa gloire et amener délivrance. Et que ceux qui le reçoivent, le désirent et le poursuivent, crient Amen ce matin dans la maison de Dieu. Je le dirais de cette façon. J'étais pendant ce temps de jeûne et prière, et j'ai entendu ces mots à propos de ce formidable jeune homme, joueur de football, Laurent Duvernay-Tardif, qui s'en va, qui est au Super Bowl cet après-midi, un médecin, premier médecin de la NFL qui est au Super Bowl cet après-midi. Et alors qu'on parlait de lui, j'écoutais les informations, puis ils ont dit, un Québécois qui va où aucun Québécois n'était allé auparavant. Il a été saisi par l'Esprit avec cette pensée, non seulement pour nous dans nos vies personnelles, mais je veux vous donner cette parole qu'en tant qu'Église Nouvelle Vie, nous allons aller. Il y a des choses qu'on a toujours entendues, qu'on a vécues déjà, mais il y a des choses qu'on a vues ailleurs, qu'on a vues dans différentes nations. Et Dieu dit, a mis sur mon cœur toute la semaine, dit au peuple cette année qui vont chercher ma présence, qu'ensemble, ce peuple chrétien du Québec, ce peuple de Nouvelle Vie, Québécois, vont aller à un endroit où d'autres Québécois ne sont jamais allés auparavant, dans la manifestation de la gloire et de la présence de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Dis à quelqu'un près de vous, spirituellement, avec un sourire, dis à quelqu'un près de vous, on s'en va au Super Bowl. Dis ça à quelqu'un près de vous. Alors, il y a tout ce fruit, ces preuves irréfutables, guérison entière, dès et maintenant, à l'heure même, ne sont jamais sans combat. Jamais sans combat. Et en fait, les conquêtes vont être proportionnelles. Les combats qui vont les accompagner sont proportionnels à la conquête. Les disciples sont arrivés, ont dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pouvons-nous pas? Et un peu humiliés peut-être, ils ont prié, il n'y a aucune percée qui prend place. Et en particulier, ils se sont approchés de Jésus et lui dire, en particulier, pas devant la foule, c'était gênant, mais à lui tout seul, pourquoi ne pouvons-nous pas? Pourquoi n'avons-nous pas pu? Et j'aimerais vous défier, poser la question, es-tu prêt à être assez honnête cette année pour dire à Dieu, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas? Pourquoi est-ce quelque chose dans ma vie? Pourquoi ne puis-je pas? Et si tu y vas, je te garantis qu'il va te répondre. Pourquoi n'avons-nous pas pu? Et Jésus identifie deux, c'est pour ça que le message, deux obstacles, deux voleurs, deux avorteurs de destinée et de notre foi, deux étouffeurs de la foi. Et on regarde dans ce texte-là, on voit dans Matthieu 17, un problème identifié, on va les identifier pour eux et pour nous parce que c'est la même dynamique aujourd'hui, le même défi aujourd'hui. Une puissante invitation et une percée dans l'impossible. Deux avorteurs, puis on va donner deux antidotes pour qu'on puisse avoir accès à une percée dans l'impossible. Et la première dynamique, c'est un problème identifié. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Et Jésus identifie deux choses. L'incrédulité, vous êtes une génération incrédule et perverse. La génération, ici, dans le grec, c'est une famille d'une même génération d'humanité, très proches les uns des autres dans le temps et en caractère, vivant à une même époque. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes une génération laquelle, et il dit, cette génération, elle est incrédule, apistos. Jésus dit, je vais vous identifier le blocage, le problème, le mur que tu frappes, c'est que tu n'es simplement pas assez connecté avec Dieu. Pas assez connecté avec Dieu. T'es dans l'incrédulité, tu n'es pas assez en connexion avec Dieu. Le problème, l'obstacle, c'est un problème de connexion. Il y a plusieurs années, l'an dernier, je suis allé aux Philippines, mais il y a plusieurs années, j'ai eu mon premier voyage aux Philippines. J'étais en route vers là-bas, c'est super long, 19 heures de vol à partir de New York. Et j'arrive à New York et j'étais à Kennedy, dans la toilette des hommes à Kennedy avant d'aller prendre mon vol. Et ça n'a même pas été 7-8 secondes. J'avais mon téléphone cellulaire, je l'ai mis sur le comptoir, je me suis lavé les mains. Puis quand je me suis retourné, le téléphone était parti. Quelqu'un m'avait volé mon téléphone, j'étais tellement agressif, j'étais tellement que je me suis mis sur le bord de la porte, il y avait 7-8 hommes, 10 hommes qui étaient là, j'ai dit « personne bouge, nobody moves ». Les gars me regardaient tout, je vais avoir l'air sérieux parce que personne n'a bougé, et j'ai dit « sir, you have a phone, phone this number, appelle mon numéro, s'il sonne, s'il y en a un qui est là dans sa poche, puis il sonne, tu vas te faire sonner, s'il sonne ». Non. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre la dénomination. Et personne, alors il a appelé, et le policier de l'aéroport me dit, après, je fais un rapport, il dit, mais non, ici, les voleurs, là, ils partent, ils l'éteignent en même temps, etc., ça arrive régulièrement, et j'avais tout dans ce téléphone-là, j'avais toutes mes connexions, j'avais tous les vols, j'avais les hôtels là-bas, j'avais le nombre de réunions, j'avais mis des plans de prédication, j'avais mis plein de choses, j'étais tellement, paniqué parce que j'étais déconnecté. J'étais complètement déconnecté. Et certains d'entre nous passons nos vies dans l'incrédulité parce que nous sommes déconnectés avec Dieu. Tu es déconnecté avec lui, tu es déconnecté à ta... Le Seigneur dit le problème numéro un, c'est que tu es incrédule, tu es déconnecté avec Dieu. Alors la question, c'est comment est ta connexion avec Dieu et qu'es-tu prêt à faire pour la développer cette année? Où en es-tu dans sa présence, sa parole, sa maison, son royaume, la place que tu lui fais dans ta vie? Quelle place? J'ai lu un article fascinant, quelqu'un m'a envoyé un article qui sur à quel point les réseaux sociaux c'est envahissant, que littéralement, aux États-Unis, ils appellent ça, surtout je pensais à Jésus qui dit « il faut que tu demeures », ils appellent ça les trois demeures. Que tout le monde, maintenant, au 21e siècle, la majorité des habitants de la planète, ils habitent dans leur maison ou leur appart, il y a le lieu où ils travaillent, puis la troisième place, c'est les réseaux sociaux, c'est leur appareil, c'est leur tablette. Et là, vous avez une génération de croyants qui sont 30, 40, 50, 60 heures semaine sur leur tablette et qui viennent passer quelques minutes avec Dieu et disent « Comment ça se fait que je n'ai pas d'autorité? Comment ça se fait que je frappe le mur? » C'est une affaire de connexion, c'est une affaire de correction avec lui, de connexion avec lui. Jésus a dit « Tu n'es pas assez connecté avec moi. Es-tu prêt à prendre des décisions cette année à mesure et dans la mesure où tu vas te reconnecter plus profondément avec moi? » Et le deuxième obstacle, la première, c'est incrédule. Vous n'êtes pas connecté avec, vous n'êtes pas assez connecté avec moi, avec ma maison, avec ma parole, avec ma présence, avec mon peuple. Vous n'êtes pas assez connecté avec moi. Et le deuxième obstacle, c'est que vous êtes trop, pas assez connecté avec moi, dit Jésus, et trop connecté avec le monde. Perverse. Pas trop connecté avec ce qui nous dilue, avec ce qui nous décourage, trop connecté avec ce qui nous diminue dans notre marche avec Dieu, trop connecté avec ce qui nous fait dévier, ce qui nous déçoit et ultimement, ce qui nous démonise et peut nous détruire. Le mot pervers ici, diastrépho, c'est pas comme une génération de pervers comme on le pense aujourd'hui, pervers sexuel ou pervers. Non, le mot veut dire tu es déformé. Tu es détourné, tu es devenu opposé à la nature de Dieu. Tu es dénaturé. La nature de Dieu est déconnectée en toi. Ta foi a été corrompue. Ce que je regarde, ce que je fais, peut me connecter ou me déconnecter. La pornographie déconnecte des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Le mensonge nous déconnecte de la présence de Dieu. L'amertume nous déconnecte de la présence de Dieu. La paresse spirituelle, l'orgueil, nous déconnecte de la présence de Dieu. L'adultère, qu'il soit en action ou qu'il soit en pensée, nous déconnecte. La souillure à laquelle des croyants, des chrétiens, par des dizaines d'heures par semaine, se soumettent à des émissions, une après l'autre, des séries en rafale où il y a sexualité, où il y a immoralité, où il y a vulgarité, où il y a un abaissement et un abaissement et un abaissement, souille ton esprit, dénature la nature de Dieu en toi, te fait dévier, te déconnecte. La réponse de Jésus est celle-ci. Tu veux voir cette mesure, tu veux voir cette victoire, tu veux guérir de ce qui t'avait blessé. Tu veux entrer dans ce que j'ai pour toi, tu as besoin de rétablir cette connexion avec moi et me laisser par mon esprit te montrer ce qui te déconnecte de moi. Quelqu'un devrait dire oui. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un problème identifié. L'incrédulité. Vous n'êtes pas assez connecté avec moi. La génération perverse, trop connectée avec ce monde. T'es trop connecté avec tes colères. T'es trop connecté avec tes blessures. T'es trop connecté avec ton passé, ton amertume, tes déceptions. T'es trop connecté avec tes inquiétudes, tes angoisses. T'es pas assez connecté avec mes promesses, avec qui je suis, avec ma nature, avec ma présence, avec mon esprit. L'inquiétude n'a jamais rien changé, mais la prière change les choses et me change moi. Littéralement, c'est là qu'une des œuvres les plus négligées, oubliées, piétinées du Saint-Esprit prend place. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous convaincre. Il est l'Esprit de vérité. Et une des choses les plus puissantes qui peut arriver cette année, c'est qu'à chaque jour de venir et dire « Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que ça fasse un an que tu es chrétien ou que ça fasse 50 ans. Seigneur, mon Dieu, par ton esprit, viens me conduire, viens me montrer comment je peux plus être connecté avec toi et viens me montrer ce qui me déconnecte de toi. » Littéralement dans Jean 16, lorsque Jésus explique l'œuvre de l'Esprit, « Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas, il parle du Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vais mourir et ressusciter, je vous l'enverrai. Et vous allez être le temple du Saint-Esprit, pas seulement de manière sporadique où il va venir sur vous comme dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, si tu veux, il va habiter en toi, il va te conduire, le Paraclétos, le Consolateur, celui qui se tient pour toujours avec nous lorsqu'il sera venu. Il est l'Esprit de vérité. Il vous conduira et vous convaincra dans toute la vérité. Jean 15, 16, versets 7 à 13. « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. » On a besoin d'être saisis ce matin avec cette pensée. Le Consolateur n'est pas seulement, le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous consoler ou nous cajoler. Il est là pour nous convaincre, pas nous condamner, mais nous confronter et nous convaincre de ce qui nous déconnecte d'avec Dieu, de ce qui est péché devant lui, de ce qui souille ma relation, ce qui me dénature dans ma relation avec lui. Si vous voulez voir quelque chose, si vous voulez aller plus loin avec Dieu, écoutez cette phrase et qu'elle soit écrite dans votre cœur. Les visions que le Saint-Esprit donne pour moi s'accomplissent dans sa vérité en moi. Il vous annoncera les choses à venir. Il y a plusieurs cercles où on est continuellement de l'Esprit à dire, grandes visions. Les visions que le Saint-Esprit donne peuvent seulement s'accomplir si tu le laisses te montrer la vérité de ton cœur, la vérité de ce qui doit changer, la vérité de ce qui te déconnecte avec Dieu, la vérité que tu ne peux pas voir par toi-même. Il ne parlera pas de lui-même. C'est une grande faute et faiblesse du monde chrétien pentecôtisant moderne. Le Saint-Esprit n'est pas une fin en soi. Il n'est pas un objet de consommation chrétienne pour ta bénédiction seulement. Le Saint-Esprit, c'est une fin en soi. Non, il ne parlera pas de lui-même. Il veut élever les plans de Dieu dans ta vie. Il veut te conduire dans la vérité. Il veut te changer, te transformer, te reconnecter avec Dieu et te faire discerner et briser ce qui t'a déconnecté avec lui. Quelqu'un devrait dire oui. Si tu lui demandes, Seigneur, montre-moi comment être plus fort dans ma foi, comment être plus connecté avec toi, comment être plus... Ce qui me déconnecte de toi, l'Esprit de vérité va venir. Il va te montrer, pas te condamner, mais te convaincre. Il va te donner la capacité de... Et alors, il va se mettre à te parler. Il va se mettre à te montrer les choses qu'il a de préparer pour toi. Jésus dit, il y a deux avorteurs de vision. Mais voici les deux antidotes. Il a identifié les deux problèmes et voici maintenant les deux poursuites qui vont restaurer les deux poursuites afin que le mur tombe, afin d'amener cette mesure. Littéralement, versets 19 à 21, alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, en particulier, pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas pu? C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi et rien ne vous serait impossible. Et voici les deux solutions. Mais cette mesure ne sort que par la prière et le jeûne. Jeûne et prière, pas seulement pendant quelques jours en début d'année. Si vous allez sur le podcast de l'Église pour la prochaine année, nous allons enseigner sur le jeûne et la prière, toutes sortes de jeûnes. Ce n'est pas seulement un jeûne de 40 jours comme Jésus dans le désert. Il y a plein de jeûnes bibliques. Et la majorité des chrétiens sont assez ignorants sur le jeûne. Assez ignorant. Bon, on souriait cette semaine avec ma fille qui nous disait, nous racontait que lorsqu'elle était enfant, elle grandissait à l'Église de Belleville, 7, 8, 9 ans, 10 ans, il y a un moment donné, une année, où on s'est mis à parler du jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel. Alors, tout le monde passe. Mon père, il fait le jeûne de Daniel. Et pendant plusieurs années, elle a pensé que c'était le jeûne de Daniel Descaries. Mon père, il fait le jeûne de Daniel. Mon père, il fait le jeûne de Daniel, le jeûne de Daniel Descaries. Alors, et finalement, elle a dit, oh, il y a un autre Daniel qui existe dans le monde, dans la Bible. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas bien plus connaissants que ça. Dieu veut vous enseigner, Dieu veut vous équiper. Ce n'est pas quelque chose qui est juste souffrance, 40 jours dans le désert comme Jésus. Il y a une graduation à faire. Et ce n'est pas pour une élite. Ce n'est pas par le jeûne et par la prière. Jésus n'a pas dit pour les quelques-uns, pour les pasteurs, pour ceux qui prêchent, pour ceux qui, etc. Dans son enseignement universel aux chrétiens, dans Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, « Quand vous priez, quand vous donnez et quand vous jeûnez. » Il n'a pas dit « si vous jeûnez ». Et si ton christianisme, si ta version du christianisme n'inclut pas de prier, de donner de tes biens matériels pour, à l'œuvre de Dieu et pour, au secours de ceux qui souffrent, et le jeûne n'est pas inclus, il te manque. Tu n'es pas dans le christianisme, la vie de disciple que Jésus a pour toi. Dans le jeûne et la prière, il y a une mesure d'autorité, de libération, de chaînes brisées, de faveur, de percée, de provision du ciel ouvert, de victoire, des ténèbres qui vont reculer, que seulement le jeûne et la prière peut donner. Et laissez-moi être pratique avec vous pendant un instant. Ne pensez pas que le développement d'une vie de jeûne et prière est venu facile à qui que ce soit. C'est un apprentissage, sans condamnation. Je veux, en 2020, faire un pas de plus. Je veux apprendre. Et il y a des choses très, très, très pratiques. Vous avez besoin d'avoir dans votre vie une place où vous priez. C'est là. Il y a une place où vous soupez, il y a une place où vous déjeunez, il y a une place où vous habillez, il y a une place où vous regardez la télé, il y a une place où vous vous entraînez, il y a une place où vous avez votre ordinateur, il y a une place où vous faites, vous travaillez. Est-ce qu'il y a une place où tu pries? C'est là. Si vous venez chez nous, demandez à mon épouse, moi, je peux demander à moi, ta femme prie où? Il y a des spots dans notre maison. Ces temps-ci, depuis on a déménagé dans une nouvelle maison il y a 2 ans, et il y a un endroit tous les matins que je descends dans la cuisine, le soleil, sa tasse de café, le chien à côté d'elle, sa Bible. Ça, c'est son spot. Ça, c'est sa place. Tu peux pour le reste de ta vie venir écouter des prédications sur la prière. C'est comme quelqu'un qui dit pour le prochain 2 ans, pour le prochain 5 ans, et disant, je vais aller à chaque semaine écouter une conférence sur l'exercice. Une conférence sur la perte du poids, une conférence sur l'exercice, une conférence sur ma... Et à toutes les semaines, je vais venir écouter, combien comprennent que tu peux le faire pour le prochain 5 ans, à moins que ça rentre dans ta maison, à moins que ça devienne une pratique à quelque part, il n'y a pas de changement. Il y a tellement de chrétiens qui viennent écouter des messages sur la prière, il faut que ça se rentre dans ta maison, il faut que tu trouves ta place à toi. Ça, c'est ma place, c'est là que je prie, c'est les moments où je prie. J'aime tellement cette image très pratique de Daniel, alors qu'il y a un décret contre lui. Dans Daniel chapitre 6, et comprenant ce début d'année, que sur chaque croyant, non seulement en tant qu'Église, mais sur chaque croyant qui est ici ce matin, il y a une destinée de Dieu que seulement toi tu peux accomplir. Est-ce que tu le crois ce matin? Ah, il faut que vous répondiez mieux que ça. Est-ce que tu le crois ce matin? Dans cette saison-ci de ta vie, il n'y a jamais de retraite, il n'y a jamais de cette année. Il y a une destinée que tu peux découvrir et accomplir dans la présence de Dieu, à connecter à lui, coupant de plus en plus ce qui te déconnecte. Mais en plus de cela, tu as besoin de savoir qu'au-dessus de chacun d'entre nous, il y a une destinée de Christ et il y a un décret de l'ennemi pour ta destruction. Le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais il y a un décret pour te faire t'éloigner de Dieu. Il y a un décret pour que la peine que tu as vécue t'arrache au royaume. Il y a un décret pour que tu te décourages. Il y a un décret pour que ton mariage saute. Il y a un décret pour que tu abandonnes. Il y a un décret aussi contre toi. Il y a un combat qui est spirituel. Et Daniel a reçu un décret du roi qui le menaçait de mort, qui avait pouvoir de mort sur lui. Et dans Daniel chapitre 6, ce n'est pas Daniel Descaries, c'est Daniel chapitre 6. Lorsque Daniel apprit que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et 3 fois, c'est pas un nom, il faut que je le fasse 3 fois, mais il y avait un moment, il y avait des temps, il y avait un endroit, ça c'est ma place, ça c'est les moments. 3 fois, il se mettait à genoux, il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant, comme il l'avait toujours fait, comme il l'a fait toutes les autres fois. Et alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et qui invoquait son Dieu. C'est un switch. C'est une maturation où la prière n'est plus... La prière est ta première réponse et non ton dernier ressort. C'est pas « j'ai tout essayé avant, Seigneur, aide-moi ». C'est pas juste quand tout va mal et que le décret frappe et qu'ils sont en train de défoncer la porte. L'image ici, lorsque le texte dit, en français de l'hébreu, « ils sont entrés tumultueusement, ils ont défoncé la porte pour venir s'emparer de lui ». Et croyez-moi, c'est la vie, c'est le combat spirituel. Il va y avoir des moments dans cette prochaine année où l'ennemi défonce la porte, où il arrive, et tout en toi ne comprend pas ce qui t'arrive et où. Et comment va-t-il te trouver? Je dis, Seigneur, cette année, qu'il me trouve comme la veille et l'avant-veille, dans ta présence, à dépendre de toi, à appeler à toi sous ta protection divine. Quelqu'un devrait dire amen. Littéralement, cette puissante invitation de la part de Dieu, c'est important que tu comprennes. Tu comprennes, c'est ce que on pourrait l'appeler le principe de prier en premier, de la priorité de la prière, de chercher d'abord, et tout le reste va être ajouté par-dessus. Matthieu chapitre 5, cherchez d'abord le royaume. Il y a un principe des premiers fruits dans la Bible qui est dans tous les domaines. Que ce que tu mets en premier, ce que tu mets en premier amène ou la vie, ou la mort, ou la croissance, la famine à tout le reste. C'est ça en passant qui est le principe de la dîme. Ce n'est pas une affaire de montant, c'est une affaire de j'ai mis Dieu en premier et la bénédiction découle sur tout le reste. je vais aller à Dieu en premier et je vais le mettre comme une priorité. Je vais laisser mon esprit calibré et dominé et être souverain sur toutes les autres parties de ma vie. La créature, l'être humain, nous sommes chacun d'entre nous des êtres. C'est unique dans la création de Dieu. Le seul être tridimensionnel de la création, c'est l'être humain, qui a corps, âme et esprit. Chacun d'entre nous, le corps, c'est ce qui nous connecte à nous-mêmes. L'âme, c'est ce qui nous connecte aux autres. Et l'esprit, c'est ce qui nous connecte à Dieu. Le corps, c'est la dimension physique. Un arbre a seulement une dimension physique, un rocher, une création, une montagne qui a physique seulement, pas d'âme, pas d'esprit. Le corps, la dimension du soi. J'ai soif, j'ai faim, j'ai des besoins, j'ai mal, j'ai peur, j'ai des pulsions, j'ai des désirs. Mon corps, le ressenti, ce qui demande d'être satisfait, nos appétits, ce que je vois, ce que je sens, ce que je ressens, ce que j'entends juste au niveau humain, le moi, l'ego, ma connexion avec moi-même, le corps, l'âme, l'être humain est corps, il est âme, c'est ma connexion avec les autres. L'âme, c'est la conscience, la volonté, les émotions. Une personne, nous pensons avec notre connaissance, nous désirons avec notre volonté, nous ressentons avec nos émotions. Dans notre communion avec Dieu, notre communion avec Dieu peut nous permettre de grandir à penser comme Dieu pense, à désirer ce que Dieu désire, à ressentir ce qu'il ressent, afin de faire ce qu'il veut qu'on fasse et afin d'être ce qu'il veut que nous soyons. Ça, c'est l'âme. Mais l'âme, c'est les autres. C'est toutes les dynamiques de ma relation avec les autres, ma dépendance avec les autres, ma déception des autres, les émotions envers les autres, ma jalousie des autres, mes attentes des autres, mes blessures auprès des autres, mes désirs, mon bonheur. Alors, vous avez le corps, vous avez l'âme et vous avez l'esprit. Puis à chaque fois que j'enseigne là-dessus, il y a quelqu'un qui m'écrit, est-ce que les animaux ont des âmes? Est-ce que mon chien va être au ciel? Je ne sais pas si les chiens vont être au siège de ça à Dieu. Les chats, non, mais les chiens, je ne sais pas. Si vous avez un chat, soyez bénis. Envoyez-moi pas de courriel, je ne lirai pas. Alors, non, mais l'âme, c'est la connexion avec les autres. Et l'esprit, c'est connecté, c'est ce qui me connecte avec Dieu. Écoutez bien, en ce moment dans ta vie, chacun d'entre nous, à chaque saison de notre vie, chaque jour, il y en a un des trois qui règne. Et celui qui règne va déterminer beaucoup dans ta vie. Si tu es dominé, puis on connaît tous, puis on a tous été, et nous aurons tous cette capacité, cette tendance, que ce soit le corps qui domine, le « je », ce que moi je veux, mes pulsions et mes choses, et c'est la destruction. Et si c'est tes émotions qui dominent, si c'est ton âme qui domine, c'est pour ça que le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel et que mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Lorsque tu rétablis la connexion et tu permets à ton esprit de venir calibrer, de venir équilibrer, de venir guérir, de venir restaurer tous les autres aspects de ta vie, il y a une reconnexion qui permet l'action surnaturelle de Dieu dans ta vie, qui permet, deux moments de jeûne en terminant, qui permettent littéralement dans ce combat spirituel, ce jeûne et la prière en 2020, afin de recevoir et de ne pas résister aux choses nouvelles que Dieu prépare. Matthieu chapitre 9, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus lui dire, « Pourquoi? Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous? » Ils jeûnaient de manière religieuse, ils jeûnaient de manière extérieure. Les pharisiens jeûnaient pour être vus, pour gagner des points avec Dieu. Tandis que tes disciples, en ce moment, ne jeûnent pas. Jésus leur répondit, les amis, donne une analogie. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront, voici l'appel de Jésus, les jours viendront où l'époux, lui, sera enlevé, mort et ressuscité, régnera, et alors ils jeûneront. « Then they will fast. » Alors, ils devront jeûner. Ils jeûneront. Pourquoi? Parce que personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Car on porterait une partie de l'habit, la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin dans des nouveaux, dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. C'est seulement dans le jeûne et la prière que nous pouvons recevoir, dans le jeûne de la prière, que je peux maintenant recevoir les choses nouvelles que Dieu veut faire dans ma vie. Dans le jeûne et la prière, nous discernons et nous devenons convaincus de cette réalité spirituelle qui est inaccessible sans communion avec Dieu, que ce qui souvent apparaît comme étant des fins sont en fait un commencement. qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. Tu as vécu une fin, il y a quelque chose qui a fini, tu parles. Cette salle est remplie de gens qu'on a vécu. Ceux qui l'ont vécu, voulez-vous, dans un instant, dire amen et acclamer le Seigneur pour que quelqu'un qui a besoin de l'entendre, l'entende. Il y a tellement de moments dans nos vies, on pensait que c'était la fin, mais dans la présence de Dieu, en fait, les fins avec Dieu sont des commencements de choses nouvelles qu'il a préparées. Des choses nouvelles, un vin nouveau! Mais manquez pas ceci. À moins que le vase de qui tu es, l'outre, à moins que le vase de qui tu es soit renouvelé, tu ne peux pas voir la vision. Ça va déchirer et déchirer encore plus. On a besoin, chacun d'entre nous, de dire, quel que soit ce qui semble une fin, quel que soit ce que j'ai obtenu de Dieu dans le passé, Dieu, tu veux faire une chose nouvelle dans ma vie. Je m'en viens m'offrir à toi dans le jeûne et la prière. Viens déverser ton vin nouveau en moi. Quelqu'un devrait dire oui. Afin de recevoir et ne pas résister, le dernier passage, afin de relâcher et de répondre. L'Église d'Antioche, dans Acte 13, il y avait dans l'Église des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode, le tétraque, élevé avec le roi de l'époque, et Saul de Tarse. C'est pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, mais ils jeûnaient et priaient. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. » Je voudrais vous dire, je regarde ça et je vois quelque chose de magnifique dans l'église d'Antioche que nous voyons ça tous les dimanches. C'est la diversité. Juste les noms qui sont là, vous avez des gens tellement de milieux, mais d'arrière-plan, vous avez dans l'église d'Antioche différents ministères. Il y avait des pasteurs, il y avait des apôtres, il y avait des évangélistes, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes. Mais il y avait aussi quelqu'un, Siméon, qui était Niger, qui était du continent africain, un immigrant. Peut-être a-t-il été converti à la Pentecôte et maintenant il est dans l'Église, à côté de Lucius de Cyrène et à côté de Manahan qui lui avait été élevé avec Hérode et Saul qui est un grand pharisien religieux. Ils sont tous ensemble comme nous ici ce matin, quel que soit l'arrière-plan, quelle que soit la couleur, ta couleur de ta peau ou le manque de couleur au mois de janvier pour certains, quel que soit ton arrière-plan religieux ou pas religieux, immigrant ou riche, élevé avec les rois ou élevé tout seul et abandonné, on est tous ensemble. En ce moment, ensemble, à chercher et à avoir besoin de la présence de Dieu, à jeûner et à prier et à désirer que Dieu agisse. Et nous ne pouvons pas seulement servir dans nos ministères. Et ça, c'est une des paroles pour Nouvelle Vie qui est très axée sur se donner, sur servir, et ce n'est pas deux forces opposées. Dans tellement de milieux, vous avez l'Église qui, elle, cherche la présence de Dieu et ne sert pas ni sa communauté, ni les âmes, ni rien. Et vous avez une Église qui est là à servir dans l'activisme. Ils servaient dans leur service, dans leur ministère, mais dans le jeûne et la prière. Et le Saint-Esprit a dit, « Mettez à part pour l'œuvre à laquelle je les appelle. » 2020 est une année comme peu dans les derniers 5 ans, 10 ans, à chaque année. Mais cette année, prophétiquement, 2020 est une année où l'Esprit de Dieu met des gens à part. Où l'Esprit de Dieu dit, je t'appelle à me servir. Tu dois répondre à mon appel. Il y a des choses qu'il faut que tu... Il les laissèrent partir. Tu ne peux pas entrer dans ce que Dieu a pour toi sans relâcher certaines choses. Et dans le jeûne et la prière, Dieu va dire, relâche maintenant, laisse partir. Laisse partir la défaite, laisse partir la déception, laisse partir tes ambitions, laisse partir ta sécurité, laisse partir ce qui t'a été fait, laisse partir tout ça. Viens, marche vers ce que je t'annonce. J'ai des œuvres de préparer pour toi dans lesquelles tu dois entrer. Quelqu'un devrait dire oui. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. C'est pas une question de... C'est juste une question de le chercher. J'ai mentionné, alors que j'arrive à la fin du message, j'ai mentionné... Pasteur Sam qui a développé dans le jeûne et la prière, et ça a été long. Le premier été où Marc et moi, on était des stagiaires, après nos années de collège biblique, on faisait l'été, et Pasteur Sam, c'était même pas volontaire, c'était obligatoire. Il fallait arriver à 7 heures pour prier de 7 à 8, et puis on arrivait, pas qu'hier, on s'était levé à 7 heures moins quart, puis on arrivait, et l'assistante de Pasteur Sam, à l'époque, Denise, elle amenait toujours des beignes, du café, des beignes, toutes sortes d'affaires, et on sentait ça, nous, puis souvent, là, on arrivait à 7h10 et vers 8h moins 20, on était déjà dans les bangs. On était déjà dans le... Mais il y avait quelque chose qui grandissait. Il y avait jeûne, il y avait prière. Et Dieu appelle. Et Dieu forme. Et Dieu prend des gens tellement imparfaits, tellement... J'ai parlé mercredi soir et je vais témoigner ce matin que ma première... Alors qu'on a des réunions dans le temple et dans les maisons, mon premier groupe, une photo qui va apparaître à l'écran, mon premier groupe... De groupe maison. Là, sur la photo à droite, c'est moi. Et vous avez, c'était chez Aimé et Denise Bégin. et une réunion maison où on priait ensemble, on cherchait la face de Dieu ensemble. Moi, là, c'est 1980, j'ai un an et demi de vie chrétienne. C'était très bon. Et Pasteur Sam prêchait le dimanche, on avait des choses, puis on discutait le message de la semaine. Et Dieu a donné des fruits, a donné des appels. On n'avait aucune idée où le Seigneur nous conduirait. Mais quand je regarde cette photo-là, c'est hallucinant parce qu'il n'y a personne à ce moment-là qui regardait Claude et qui disait « Lui va devenir ça ». Et sur cette photo-là, il y a plusieurs personnes. Sur cette photo-là, c'est la maison de Aimé et Denise Bégin qui ont donné leur vie au Seigneur, ont été baptisés, remplis d'esprit et qui ont servi le Seigneur encore jusqu'à aujourd'hui pendant 40 ans. On servait des déjeuners dans les écoles. On servit Dieu. À partir de cette maison-là, sur cette photo-là, vous avez Robert qui est là, qui est un ancien toxicomane, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a été libéré. Et sa femme a rencontré Monique, s'est mariée avec Monique. Et Monique est pasteur en ce moment encore aujourd'hui à l'église Portail de Laval. Une femme de Dieu, vous devriez dire amen. Sur la photo, il y a Jean-François qui est là, qui a donné sa vie au Seigneur, puis qui a rencontré une des filles de la maison qui était Hélène, qui était une jeune disco queen qui a donné sa vie au Seigneur, qui est devenue Madame Hélène, la directrice générale de l'Institut de théologie pour la francophonie. Sur cette photo, il y a aussi Christian qui, lui, a commencé à fréquenter une autre fille de la maison, Nicole, qui, elle, avait un arrière-plan. Elle a témoigné elle-même publiquement où il y avait des chaînes dans sa vie, des captivités, mais qui a été changée, touchée, libérée. Et elle, Christian, depuis 40 ans, sert Dieu. Et cet automne, j'avais le fils de Christian qui est sur la photo dans ma classe à l'ITF en formation pour devenir un serviteur de Dieu et un pasteur. Je vous parle de l'Esprit de Dieu qui appelle les hommes et des femmes à se servir. Et alors que les musiciens se sont approchés, il y a un problème qui est identifié de notre connexion avec Dieu, de notre trop assez connecté avec lui, trop connecté avec le monde. Une puissante invitation à laquelle Dieu va nous permettre d'entrer ensemble dans l'impossible. J'avais cette foi sur mon cœur pour chacun d'entre nous qu'en 2020, nous allons sortir de la dimension « Pourquoi n'avons-nous pas pu? » et entrer ensemble dans la dimension « Rien ne lui sera impossible. » Ce n'est pas possible pour moi de sortir de ça. Ce n'est pas possible pour moi d'être libéré de ça. Ça n'a pas été possible. C'est une montagne. Et toute la semaine et pendant les 3 semaines du jeûne, il y avait ce cri dans mon cœur. Chacun d'entre nous, il y a une montagne là, qui est devant toi. Puis toi, tu la connais, ta montagne, en ce moment. En cette année 2020, par des preuves irréfutables, par des guérisons entières, par des « et maintenant » et « alors même », ensemble, nous allons commander à cette montagne de se jeter dans la mer. Et Dieu, le Dieu de l'impossible, va l'accomplir en nous et que ceux qui le reçoivent et le recherchent et le désirent et le croient disent un dernier grand « Amen » ce matin. Et il faut que vous acclamiez à l'avance ce que le Seigneur va faire. Voici l'appel que Dieu a mis sur mon cœur. Je vous invite tous à vous lever. Et en ce dimanche matin, prenez quelques minutes. En ce dimanche matin, penchez la tête avec moi. Si vous êtes ici, vous dites, j'ai... Parce que l'autre, je veux... J'ai besoin de reconnecter avec Dieu plus que jamais. J'ai besoin de me repentir de choses que l'Esprit de Dieu met sur mon cœur, me montre et va me montrer. Qui me déconnectait. Parfois, c'est des choses secrètes, des choses de... devant nos yeux, dans nos âmes, dans nos pensées. C'est aussi des relations. Il peut y avoir des gens que le fait d'être de plus en plus avec eux vous déconnecte de Dieu, vous déconnecte de son cœur, de ses valeurs, de son appel. Et ce matin, c'est un moment solennel, un moment où nous disons, Seigneur, s'il y a des choses que je dois relâcher, je veux les relâcher devant toi. Mais j'ai une montagne d'impossible que je veux t'amener. Dans le nom de Jésus, j'ai entendu la parole ce matin, elle est pour moi. Et à la première réunion, tout le peuple entier est avancé. Si vous êtes libre de le faire, j'aimerais demander à chacun d'entre nous, est-ce qu'on peut, toute l'équipe pastorale, je demande à l'équipe pastorale de s'avancer parce qu'on va prier avec vous. Mais est-ce que je peux appeler chacun d'entre nous? Vous dites, ah, Pasteur Claude, un dimanche matin, ils vont faire un appel. Oui, je voudrais que ce début d'année, c'est tout excepté une fin. Ce n'est pas la fin d'un message ce matin. C'est le commencement d'une année dans sa présence. Alors, si vous êtes ici ce matin, vous avez une montagne d'impossible, ça peut être une personne comme ce père, c'est quelqu'un près de vous, c'est quelqu'un qui est sous captivité en ce moment, ça semble impossible qu'il vienne à lui, impossible qu'il soit libre, impossible que je guérisse, impossible que je me sorte de ça, impossible que j'accomplisse ce que Dieu met sur mon cœur. Là, ce qui te semble une fin est un commencement. Et ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous, on s'avance. Et vous, vous avancez, tout le monde s'avance en disant, voici, venez maintenant, voici mon impossible, je m'en viens le porter, je m'en viens le porter à Dieu. Venez tout près, l'église entière, on s'avance, on va prendre un moment où on vient lui porter la montagne. On vient lui porter, mais vous venez pas seulement là, venez pas de partout à travers la salle, approchez-vous de partout à travers l'église, venez ce matin. De tous les âges, de tous les arrière-plans, voici la montagne. Nous allons chanter, je m'approche de toi dans le lieu saint, je m'approche. Tu es, tu seras toujours là. Pendant que l'équipe d'adoration le chante, venez, venez. Louez, avancez quelques pas de plus parce que tout le monde s'en vient derrière vous. L'église entière qui s'approche. Il y a quelque chose qui est une montagne d'impossibilité. Je m'en viens la porter à Dieu ce matin, dans le nom de Jésus.